Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Vous écoutez Radio Classique, il est 8h.
La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
Et voici les titres du journal. Le mythique restaurant de Paul Bocuse rétrogradé. Le guide Michelin lui retire sa 3e étoile. Comment les grévistes contre la réforme des retraites prévoient-ils de faire perdurer le mouvement? Déjà 6 semaines de conflit. Et puis, celle-ci n'est pas dans le guide Michelin, mais bien dans le ciel. L'étoile Bételgeuse est en train de vivre ses derniers instants. Bonjour Guillaume.
Bonjour Renaud.
Guillaume Tabar et l'édito politique Marine Le Pen.
Eh oui, candidate déjà non pas pour crédibiliser sa démarche, mais pour construire une stature.
Radio Classique.
Et le journal de 8h nous est présenté par Sophie Echen. Bonjour Sophie.
Bonjour Renaud, bonjour à tous.
Un nouveau coup dur pour un ponte de la gastronomie française.
Et après Marc Véra en fin d'année dernière, c'est Paul Bocuse qui perd sa 3e étoile au guide Michelin 2 ans après sa mort. Cela faisait 55 ans que sa célèbre auberge de Collonges au Mont d'Or possédait cette prestigieuse distinction. Le critique gastronomique au journal Marianne Perico-Légas dénonce la posture du guide rouge.
Le guide Michelin n'est plus dans l'appréciation culinaire, mais dans le buzz médiatique. Depuis la mort de Paul Bocuse, la direction du restaurant et toutes les équipes du restaurant Paul Bocuse étaient sur le qui-vive, redoublant d'attention, de rigueur. Ils ont au contraire bien tout reverrouillé. Le restaurant n'a jamais été aussi performant aujourd'hui parce qu'il y avait justement cette vigilance accrue. On peut même dire que le restaurant se portait mieux que jamais puisqu'il y avait eu un petit rafraîchissement et donc on était dans la performance totale.
La colère du critique gastronomique Perico-Légas au téléphone de Charles Bonner.
Les suites de la grève contre la réforme des retraites, 44e jour aujourd'hui et une mobilisation en net recul.
187 000 personnes dans les rues partout en France hier selon le ministère de l'Intérieur. Ils étaient 452 000 le 9 janvier selon la même source. Qu'importe, l'intersyndicale ne désarme pas et appelle à une nouvelle mobilisation vendredi prochain, jour de présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Et alors que le mouvement semble s'essouffler, les grévistes veulent miser sur d'autres types d'action. D'ailleurs, plusieurs initiatives se développent partout en France. Une manière, Émilie Vallès, de se réinventer pour faire durer la mobilisation et obtenir enfin le retrait de la réforme.
La contestation peut revêtir plusieurs formes. Le tout, c'est de rendre visible notre colère, précise Mariana, professeure de philosophie à Créteil.
On va manifester devant les rectorats, rencontre avec les parents. Ce soir, on participe à l'occupation d'un lycée de la ville.
Les avocats, eux, ont jeté leur robe, notamment au pied de leur ministre. Ils ont occupé des tribunaux, demandé des renvois d'audience. Leur nouvelle trouvaille, la grève du zèle pour ralentir la justice, explique Valérie, avocate à Paris.
La solution trouvée par la profession, c'est de désigner 10 avocats pour une personne, ce qui fait qu'on plaide interminablement. Ça, c'est une façon aussi de résister.
Pour Guylaine, salariée du privé, cela passe par une occupation permanente du terrain.
Nous avons fait une retraite en flambeau mardi sur Évry. On a réussi à sortir 300-400 personnes. Faire des choses le soir, voilà, c'est très bien. Après 18h, des petits rassemblements dans les villes, villages.
Mais ce qui serait le plus efficace, ce serait un blocage des secteurs stratégiques, selon Cédric.
Il faudrait que la logistique se mette dedans. La logistique, le transport, plus rien rentre dans le pays, plus personne ne peut se déplacer. Là, effectivement, vous allez impacter énormément.
Et pourquoi pas aussi des coupures d'électricité. Il faut en tout cas montrer aux agents de la RATP et de la SNCF qu'ils ne sont pas seuls dans cette grève, glisse un syndicaliste.
Reportage signé Émilie Vallès.
La grève dans les transports dure depuis 6 semaines et Sophie, cela a un coût pour les entreprises parisiennes.
223 euros par salarié en moyenne, résultat d'un sondage réalisé par le MEDEF Paris auprès de ses adhérents. Plus de la moitié de ces entreprises ont financé des solutions alternatives pour assurer leur bon fonctionnement. Alors à quelles dépenses supplémentaires ont-elles été contraintes? La réponse avec Didier Kling, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
C'était d'abord pour permettre aux salariés d'accéder éventuellement à l'entreprise. Donc il y a plusieurs solutions. S'il n'y a pas de transport en commun, donc il y a le taxi, il y a le covoiturage, il y a d'autres modalités, ça coûte de l'argent. Et ensuite l'hébergement éventuel du collaborateur qui dit, moi j'ai 5 heures de trajet par jour, je peux pas, il faut m'héberger quelque part. Il y a les collaborateurs qui ont dit, mais je peux pas me déplacer, je suis pas équipé pour faire du télétravail commodément, je vais aller dans un espace de coworking. Donc il y a une multitude de petits coûts qui viennent s'ajouter.
Le président de la CCI de Paris, Didier Kling, avec Marc Tédé. Et puis cet autre coût dû à la grève, près d'1 milliard d'euros, c'est le montant des pertes de la SNCF depuis le début du mouvement. Le nouveau PDG de la compagnie, Jean-Pierre Farandou, annoncera un plan d'économie le mois prochain, sans pour autant, dit-il, supprimer d'emplois sur le terrain.
Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05. Le combat pour les élections municipales est bel et bien lancé.
Et cela prend parfois des allures de série télé, à Biarritz par exemple, où 2 membres du gouvernement s'affrontent. Il faut que ça cesse, selon Édouard Philippe. Le Premier ministre estime qu'une telle nouvelle affiche n'est pas envisageable, Victor Faure.
La saison n'est pas encore ouverte, mais Biarritz a déjà son feuilleton d'été. Dans le rôle du franc-tireur, Didier Guillaume. Le ministre de l'Agriculture a officiellement lancé sa campagne. La semaine dernière, dans une salle de pelote basque, Biarritz a besoin d'une incarnation et d'une impulsion, lance-t-il. Et puis, une autre affiche de campagne, celle de l'actuel maire de la station balnéaire, Michel Venac, qui fait campagne avec un autre membre du gouvernement, le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, le Pygmalion de la Côte Basque. Voilà pour les personnages. Du côté de l'intrigue, les deux candidats, dont aucun n'est biarrot d'origine, n'ont pas suivi les mêmes courants. Didier Guillaume est un ancien du PS, Jean-Baptiste Lemoyne est issu de la droite, et il fait campagne pour un maire modem, parti allié de la majorité. La boucle est bouclée, mais ce casse-tête, mélodrame baroque, dit Édouard Philippe, n'amuse pas vraiment l'exécutif.
Victoire Faure, les élections municipales dont vous parlerez avec votre invité à 8h15, Renaud, Marlène Schiappa, candidate dans le 14e arrondissement de Paris. L'actualité à l'étranger, c'est Washington qui admet finalement que 11 soldats américains ont été blessés dans l'attaque iranienne d'une base militaire en Irak la semaine dernière. Donald Trump avait assuré que cette offensive n'avait fait aucun blessé.
Betelgeuse, ce nom vous dit peut-être rien, mais depuis quelques semaines, tous les grands télescopes du monde n'ont Dieu que pour elle.
Betelgeuse, c'est cette étoile reconnaissable entre toutes dans nos ciels d'hiver, notamment grâce à sa couleur vive, rouge, orangée. Pourtant, depuis fin octobre, cette géante, 1000 fois plus grosse que le Soleil, n'est pas au meilleur de sa forme. Sa luminosité a chuté de 60 à 70 %. Triste spectacle d'une étoile en fin de vie. Alors, va-t-on bientôt la voir imploser pour se transformer en supernova? C'est un spectacle très rare, explique Pierre Carvala de l'Observatoire de Paris.
Betelgeuse pourrait exploser en supernova. Il faut savoir que Betelgeuse est une étoile massive qui fait à peu près 15 fois la masse de notre Soleil, et ce type d'étoile va terminer sa vie sous la forme d'une explosion cataclysmique, hein, vraiment extrêmement puissante, qui va détruire l'étoile et donc faire un magnifique spectacle avec la lumière de l'étoile qui augmente énormément. Elle atteindra, on pense, la luminosité totale de la pleine Lune, concentrée dans une étoile qui sera toute petite, donc on aura une source extrêmement brillante qui brillera de manière très vive à la fois la nuit et également qui sera visible dans la journée sans aucune difficulté.
Pierre Carvala avec Rémi Pfister. Et puis lui aussi aura contribué à nous mettre des étoiles plein les yeux. Christopher Tolkien, le fils de l'auteur du Seigneur des Anneaux, est mort. Pendant des décennies, il s'était consacré à l'héritage littéraire de son père. Christopher Tolkien avait 95 ans.
Merci Sophie, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Quelques notes de Dvorak sur Radio Classique. Pourquoi ? Eh bien parce que ce soir, à la Philharmonie de Paris, l'Orchestre Symphonique de Chicago, dirigé par Riccardo Muti, interprétera eh bien la Symphonie du Nouveau Monde. La Symphonie du Nouveau Monde à 8h08 sur Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis mon invité, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes.